Bonjour. Dans les cours précédents, nous avons examiné un certain nombre de qualités qui pouvaient permettre de redéfinir les conditions d'une relation positive entre gouverné et gouvernant. Et j'avais choisi de mettre l'accent sur la notion de responsabilité et celle de lisibilité. Je voudrais maintenant m'attacher à examiner des qualités concernant les gouvernants eux-mêmes. Les qualités de lisibilité, de responsabilité, et j'aurais pu parler aussi, je le développerai par écrit, de celles de réactivité ou d'interaction, définissent le cadre d'une démocratie que j'appelais d'appropriation. Mais il s'agit aussi de définir les conditions d'une démocratie qui dépasse les conditions de la défiance contemporaine, et donc de voir quelles sont les qualités des gouvernants qui permettraient de définir ce qu'on pourrait appeler une démocratie de confiance. Je commence donc par la question de l'intégrité et ensuite par celle du parler vrai, qui me semble être deux des qualités susceptibles de définir une relation de confiance entre gouverné et gouvernant. La corruption, on le sait depuis Montesquieu, elle est ce qui met le plus gravement en cause un gouvernement. Et cette question, elle a été en fait au cœur de la réflexion politique depuis l'Antiquité. Et on se souvient, pour ne parler que de l'exemple français, qu'on avait parlé de révolution du dégoût à propos de 1848 pour signifier que le renvoi de Louis-Philippe avait d'abord été fondé sur un rejet des turpitudes morale et politique qui gangrenait le régime de Juillet, surtout à partir du milieu des années 1840. Et l'exigence d'intégrité des gouvernants, si elle s'inscrit certes toujours dans une telle tradition de rejet de la corruption comme subversion morale et institutionnelle inacceptable, a en même temps changé de nature et pris une importance accrue dans le monde contemporain. Du fait, tout simplement, du passage de ce que j'appelais une politique des programmes à une politique des personnes. Les conceptions traditionnelles de l'intérêt général et de la représentation s'en sont trouvées radicalement redéfinies. L'intérêt général, plus difficile à appréhender dans son contenu positif, a tendu à être assimilé plus modestement à une forme, celle de l'identification des personnes aux fonctions qu'elles occupent. D'où l'aversion de plus en plus marquée pour les comportements qui sont considérés comme des accaparements, des privatisations de fonctions publiques ou de leurs attributs. Comme en témoigne par exemple, de façon matériellement très anecdotique certes, mais socialement significative, la sensibilité récente au problème des logements de fonction considérés comme indus, ou encore la pratique de confier des emplois de collaborateurs parlementaires à des membres de sa famille. Le sentiment social est à cet égard souvent en avance sur la législation dans ce domaine, et les pressions n'ont cessé d'être fortes pour aligner sur lui cette dernière. Et c'est la catégorie d'intégrité qui dessine dans ce cadre l'horizon du bien politique, avec l'idée fondamentale que ce qui fait corps est de ce qui est inaltéré. La notion de représentation, je n'y insiste pas, a elle aussi été modifiée par l'entrée dans cette politique des personnes. La bonne représentation n'est plus seulement celle des intérêts, mais celle de l'attention aux femmes et aux hommes ordinaires. On attend des représentants et des gouvernants qu'au-delà de la manifestation de leur compassion, ils vivent comme eux. On a témoigné de façon, là encore, très anecdotique, mais significative, la circulaire du gouvernement Raffarin qui avait fixé les règles d'attribution des logements ministériels. Cette circulaire avait significativement parlé de la simplicité qui sied aux représentants de l'État, rentrant même, vous en souvenez peut-être, avec moult détails dans la précision du nombre de mètres carrés d'un logement jugé cohérent avec cet énoncé. La simplicité était dans ce cas présupposée constituer un indicateur immédiatement lisible de l'intégrité. La confiance dans les gouvernants est donc de plus en plus directement indexée sur la crédibilité dont il dispose. L'un des pères fondateurs de la pensée politique moderne, Comines, avait d'ailleurs significativement forgé ce concept de crédibilité en le dérivant du terme latin creditum, le participe passé de credere, croire. Le crédit, c'est donc ce dont disposent des personnes dans lesquelles on peut croire. C'est un attribut qui constitue la contrepartie d'un capital de confiance possédé. Alors que la défiance, à l'inverse, se nourrit de doutes, d'incertitudes, parfois fondés sur des constats objectifs concernant des comportements passés ou simplement des soupçons diffus. Considérons ici au premier chef cette dernière catégorie des soupçons diffus. Ils proviennent le plus souvent d'un effet de halo négatif concernant en général un milieu, comme celui de la classe politique, accusé de poursuivre ses intérêts propres beaucoup plus que de servir l'intérêt général. La corruption, le conflit d'intérêts, le trafic d'influence, la prise illégale d'intérêts, ces termes qui appartiennent au langage du droit autant que de la morale politique, renvoient tous à un même phénomène d'asservissement du bien public à des fins personnelles. Les délits de quelques-uns, avec les scandales qu'ils provoquent, alimentent en ce domaine la suspicion vis-à-vis de tous. La transparence vise dans ce cas à apporter des éléments d'information permettant de limiter la constitution de nébuleuses de suspicion et aussi d'avoir un effet préventif en contraignant les personnes concernées à rendre compte de la structure de leur patrimoine et de ses variations ou de la nature de leurs revenus. Elle est ainsi une gardienne de l'intégrité publique. À un âge où le fait d'une certaine impuissance est vivement ressenti, comme l'expression d'une déprise problématique sur la marche du monde, la moralité des dirigeants politiques constitue en effet un point de repère compensateur fondamental. La transparence met en œuvre un type de contrôle qui est de l'ordre du filtre, pour reprendre les catégories que Philippe Petit. Dans son livre Républicanisme, Philippe Petit faisait la différence entre la notion de filtre et celle de sanction. La notion de filtre, c'est une forme de contrôle ex ante qui s'adresse à l'ensemble d'une population, alors que les sanctions ne s'adressent qu'aux déviants, aux personnes qui ont fait un délit. Et dans ce livre, Philippe Petit avait longuement argumenté sur la supériorité des filtres sur les sanctions, puisque les sanctions ne concernant que les déviants n'avaient pas d'effet sur l'ensemble de la population, alors que les filtres ont un effet général. Préalablement à l'examen d'un certain nombre de ces questions, il me semble nécessaire de faire un certain nombre de clarifications sur la notion de transparence. La transparence, on le voit aujourd'hui, est à la fois encensée et décriée. Encensée en étant supposée constituer un remède magique à toutes les déficiences du politique et faire advenir le règne du bien. Mais décriée en étant accusée d'être le vecteur d'une nouvelle forme de tyrannie voyeuriste, aussi dévorante que destructrice du droit à l'intimité, conduisant du même coup à une vision dégradée et dégradante de la vie politique. Cette notion joue aujourd'hui sur un mode du même coup beaucoup plus équivoque, un rôle équivalent à celui qu'avait joué au XIXe siècle la notion de publicité, qui avait été centrale dans l'avènement des régimes libéraux démocratiques. Mais elle s'en distingue aussi d'une double façon. Elle lui adjoint d'abord une consonance morale, charriant des images de pureté, d'honnêteté, d'authenticité, d'immédiateté des actes aux paroles. Alors que la publicité s'appréhendait essentiellement objectivement, en termes de disponibilité d'informations, d'accessibilité de données, de mode de circulation et de diffusion de celles-ci, la transparence s'inscrit dans un halo sémantique qui mêle des références appartenant à des registres beaucoup plus disparates. En elle se lient toutes les images inversées de ce qui appartient au monde indéchiffrable de l'obscurité et du secret. Elle est aussi confusément attirante, cette transparence est rédemptrice que la nuit est pécheresse, lourde de tentations indéterminées. Mais en second lieu, la transparence s'applique à un champ beaucoup plus large. La publicité concernait au premier chef les relations de l'exécutif et du législatif, ainsi que celles du législatif avec l'opinion. À l'âge de la transparence, c'est le comportement des personnes en général qui a pris une importance déterminante, alors que l'affrontement politique des idéologies a perdu sa précédente évidence, comme on l'a déjà souligné. Faute de savoir ce que le pouvoir doit positivement faire, on se soucie dorénavant surtout de ce qu'il devrait être. La référence à la transparence participe dans cette mesure d'une entreprise de transfiguration du politique. Elle correspond à l'âge du scepticisme et de la défiance démocratique, à l'état d'un monde dans lequel les comportements des individus deviennent souvent plus importants que les idées qu'ils défendent. Et elle invite à mettre en place un instrument d'évaluation et de mesure de l'action avec lequel la vérification de la sincérité se substitue à une appréciation jugée plus problématique de l'efficacité. L'aversion morale devient du même coup dans ce cadre une variable décisive de constitution du jugement politique. Pour avancer dans la réflexion critique sur la notion de transparence, il me semble nécessaire d'en distinguer trois figures. La transparence comme utopie, la transparence comme idéologie et la transparence instrumentale. La transparence comme utopie, elle a été historiquement associée au nom de Rousseau. Et on a le plus souvent retenu à ce propos ce qu'il en avait dit dans les Confessions. Explicitant l'objectif de ce qu'il avait voulu entreprendre dans son livre, il avait noté, je le cite, « Je voudrais pouvoir, en quelque sorte, rendre mon âme transparente aux yeux du lecteur. Et pour cela, je cherche à la lui montrer sous tous les points de vue, à l'éclairer par tous les jours, à faire en sorte qu'il ne s'y passe pas un mouvement qu'il n'aperçoive, afin qu'il puisse juger par lui-même du principe qui les produit. » Cette transparence à laquelle Jean-Jacques se référait définissait à la fois une méthode et un objectif littéraire. Il a fait de cette façon des Confessions un livre absolument pionnier, qui a inauguré avec éclat un nouveau genre, celui de l'exploration psychologique du moi, de la plongée sans phare dans l'intimité des actions et le secret des pensées. Mais la transparence était aussi pour lui la base de toute morale. Le juste rapport avec autrui impliquait en effet à ses yeux de bannir le secret et la dissimulation. C'est ce dont il s'était d'ailleurs crédité lui-même dans un passage fameux des Confessions dans lequel il fait référence à son cœur, je le cite, « transparent comme le cristal ». Lui, je le cite à nouveau, qui n'a jamais su cacher durant une minute entière un sentiment un peu vif qui s'y fut réfugié. On pourrait discuter cette morale et montrer comment des formes de dissimulation, j'en dirai deux mots tout à l'heure, sont aussi nécessaires à la constitution de relations sociales apaisées. La question a été très commentée et argumentée. Mais l'essentiel est là d'insister sur la visée anthropologique et politique qui sous-tend le propos de Rousseau, celui d'une transparence comprise par un état social. C'est cela la transparence comme utopie, la transparence définie comme un état social, coïncidant donc avec l'idéal politique qu'il appelait de ses voeux. C'est dès sa première publication, le discours sur l'origine et le fondement de l'inégalité parmi les hommes, qu'il en a dessiné les traits. Il a ainsi décrit dans la dédicace de l'ouvrage le lieu où il aurait aimé naître, dans les termes suivants, je le cite, « un état où tous les particuliers se connaissant entre eux, ni les manœuvres obscures du vice, ni la modestie de la vertu, n'eussent pu se dérober au regard et au jugement du public. Et où cette douce habitude de se voir et de se connaître fit de l'amour de la patrie, l'amour des citoyens, plutôt que celui de la terre. Cette transparence à laquelle il renvoie dans ce texte n'est plus seulement une qualité de l'être, comme celle dont il parlait dans les Confessions, mais plus simplement une disposition morale. Elle doit être comprise comme une modalité du lien social. Elle définit les conditions d'une constitution immédiate des individus en citoyens par la seule puissance d'une imposition de visibilité mutuelle. Rousseau précisera ensuite cette conception dans ses considérations sur le gouvernement de Pologne. Il y a ainsi souligné que le propre des petits États est de prospérer par cela seul qu'ils sont petits, que les chefs peuvent du même coup voir par eux-mêmes le mal qui se fait, le bien qu'ils ont à faire et que leurs ordres s'exécutent sous leurs yeux. L'intervisibilité est ainsi appréhendée comme la clé d'un monde commun. Elle était pour lui, je cite ses expressions, le moyen le plus fort, le plus puissant, le moyen infaillible pour constituer une société unie par un même amour de la patrie. Elle consistait pour Rousseau, je le cite à nouveau, à faire en sorte que tous les citoyens se sentent incessamment sous les yeux du public, que nul ne parvienne et n'avance que par la faveur publique, qu'aucun poste, qu'aucun emploi ne soit rempli que par le vœu de la nation, et que tous dépendent tellement de l'estime publique qu'on ne puisse rien faire, rien acquérir, parvenir à rien sans elle. La transparence est dans ce cadre à la fois une forme sociale et l'opérateur moral de sa constitution. C'est grâce à elle que la société des individus pouvait se faire citer, chacun en se faisant immédiatement citoyen, résolvant le dilemme mis en lumière par l'Émile. L'Émile, vous le savez, où il a eu cette fameuse formule qu'il faut opter entre faire un homme ou un citoyen, car on ne peut pas faire à la fois l'un ou l'autre. Mais la transparence permet justement de faire l'un et l'autre. Elle devient, cette transparence, pour Rousseau, ce qui permet que chacun se détache de son intérêt personnel, tombe le masque et devienne, selon une formule souvent citée, devienne un moi sans contradiction. C'est-à-dire que les individus, par la transparence, se départicularisent, en quelque sorte. Et l'authenticité à laquelle correspondait cette transparence doit du même coup permettre de faire coïncider l'individuel et l'universel. De telle sorte que chacun n'existe alors plus pour autrui que sous les espèces d'un œil qui se superpose au sien. Mouvement de pure communion faisant émerger la lumière enveloppante d'une vérité silencieuse. Dans son célèbre commentaire sur cette dimension de l'œuvre de Rousseau, Jean Starobinski, je fais référence à son ouvrage classique « La transparence et l'obstacle », a rappelé l'importance que Rousseau avait accordée au phénomène chimique de fusion, d'amalgame, de transmutation, et rapprochant sa conception de la transparence des images qui avaient été associées au processus de vitrification. La technique de vitrification, dit Starobinski, est inséparable d'un rêve d'innocence et d'immortalité substantielle. Il faut rappeler un élément important, c'est qu'un des premiers travaux de Rousseau avait été un travail commandité par un de ses mécènes, M. de Franqueuil. Et il a travaillé pendant 4 ans avec M. de Franqueuil pour s'intéresser à la chimie du monde moderne. Et il a travaillé pendant 4 ans, rédigé un gros livre, Les institutions chimiques, dans lequel il a fait le résultat de toute cette investigation sur la chimie moderne. Ouvrage qui a été publié, republié récemment, dans le corpus de philosophie chez Fayard. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en regardant ce livre l'attention, dès les premiers chapitres du livre, l'attention qu'il avait portée aux travaux d'un physicien allemand de l'époque, Becher, qui avait développé toute une théorie de la vitrification selon laquelle l'homme lui-même était un pur ver et que ses cendres étaient en fait susceptibles, du même coup, d'être transformées en un beau ver transparent. Et il disait « La véritable révolution de l'humanité sera lorsqu'on aura compris qu'au lieu d'entasser les cadavres, on pourrait aligner des vers transparents magnifiques. » Et Rousseau avait avoué son admiration pour ce travail, mais surtout, il en avait trouvé beaucoup d'images qui lui serviront par la suite. Dans un travail très important, Bruno Bernardi, qui s'appelle « Recherche sur l'innovation conceptuelle chez Rousseau », et qui a été celui qui a remis à la connaissance de tous le livre « Les institutions chimiques », a bien montré comment tout ce travail sur les institutions chimiques avait en quelque sorte informé sa vision de la volonté générale et sa vision, bien sûr, de la transparence en général. On est donc bien loin d'une simple réflexion sur la publicité quand Rousseau parle de transparence. C'est un idéal de société pleinement accordé à la réalisation du bien commun qu'il se référait d'abord. En substituant aux aléas de la discussion et de la négociation l'évidence d'une immédiateté des esprits et des cœurs, Rousseau essentialisait la constitution du bien moral et politique. On peut dire que c'est l'essentiel de Rousseau, c'est de passer d'une vision procédurale à une vision essentialiste, substantialiste du politique. Faute de cette transparence, c'est une insurmontable discorde qui ne pourrait que triompher pour lui. La transparence rend cette façon les hommes capables de se hisser à la hauteur d'une entreprise divine, d'un bon gouvernement de l'humanité. Mais alors, dit Rousseau, alors que cette entreprise divine ne peut se comprendre qu'à l'échelle universelle, la connaissance de Dieu sur le monde étant illimitée, sans frontières, et ce monde étant tout à fait transparent pour Dieu, c'est seulement pour Rousseau à une petite échelle réduite, celle d'un petit État, qu'une transparence humaine peut être envisagée. Et donc, le petit État est important parce qu'il est l'espace de réalisation d'un universel limité, cet universel de la transparence. De nombreuses utopies de la bonne société participeront au XVIIIe siècle de cette perspective. Mais alors que Rousseau concevait la transparence dans un cadre indissociablement moral et anthropologique, des utopistes comme Morelli envisageront plus prosaïquement une humanité passée au moule d'une organisation réglée et soumise à un conformisme de la pensée et du langage. Fait peut-être exception la pensée de Don Deschamps. Don Deschamps a en effet, dans ses utopies, développé une idée qui est sur un point essentiel très proche de Rousseau, c'est une recherche des conditions dans lesquelles pourrait se départiculariser l'humanité. Et pour cela, les textes de Don Deschamps méritent d'être remédités, me semble-t-il, aujourd'hui. C'est seulement dans certains discours révolutionnaires, comme ceux de Robespierre ou de Saint-Just, que l'on trouvera ensuite la trace de la transparence spécifiquement rousseauiste. On peut d'ailleurs aussi en rapprocher, pendant la période révolutionnaire, l'omniprésence de la symbolique de l'œil dans l'iconographie de la période. Œil qui figurait aussi bien l'œil de la surveillance populaire que celui dans lequel se reflète la totalité sociale. Et c'est un symbole qui est absolument omniprésent, qui avait été choisi, bien sûr, par le club des Cordeliers, comme emblème des Cordeliers, mais qu'on voit dans toute l'iconographie de la période. La transparence idéologie est tout à fait d'un autre ordre. Elle se conçoit, elle, comme une politique, et c'est souvent silencieusement substitué dans le monde contemporain à l'ancien idéal de faire advenir un monde nouveau. Je dirais que ce sont les muckrakers américains, ces journalistes dénonciateurs des scandales économiques et de la corruption politique dans l'Amérique du tournant du XXe siècle, qui ont été les premiers à formuler les termes de cette idéologie de la transparence. Dans les années 1900, ces rédacteurs du Cosmopolitan, du Everybody's, ont publié les enquêtes qui ont permis de clouer au pilori les hommes politiques véreux et les industriels corrupteurs. Au-delà de leur dimension de presse à sensation, ce qui est aussi le cas, c'est un réveil du pays qu'ils avaient appelé, en symbiose avec le Progressive Movement de l'époque, à rénover le pays. Et ils étaient autant des journalistes d'investigation que des prêcheurs, pour lesquels morale et politique ne faisaient qu'un. Lincoln Stephens, l'un des plus illustres représentants de ce mouvement des muckrakers, qui avait été l'auteur du grand livre phare de la période, The Shape of the Cities, utilisait ainsi un vocabulaire qui était saturé de morale. Les termes de shame, de sin, de guilt, de salvation, de damnation, de pride and the soul revenant sans cesse sous sa plume. C'est bien une vision originale de la démocratie qu'il véhiculait ainsi, celle d'un type de régime défini par la transparence plus que par la volonté générale. Notre but, avait résumé l'éditeur du Cosmopolitan, je le cite, est d'assainir les cloaques des intérêts privés corrompus avec l'eau pure de l'esprit public. Ce journalisme de dénonciation rédemptrice trouvera son mot d'ordre dans une expression fameuse de Louis Brandeis du Harper's Weekly, qui se présentait comme l'avocat du peuple. Je le cite en anglais parce que c'est une phrase qui est continuellement répétée encore aujourd'hui dans le débat public américain. Brandeis avait écrit dans un livre qui s'appelait « Other People's Money and How the Banker Use It » avait écrit « Publicity is justly commended as a remedy for social and industrial diseases. » Et voilà la phrase toujours reproduite. Elle dit « Sunlight is said to be the best disinfectant, electric light the most efficient policeman. » La lumière du soleil est, dit-on, le meilleur désinfectant, la lumière électrique est le plus efficient des policiers. Dire que la lumière électrique est le plus efficient des policiers, c'est d'ailleurs pas tellement nouveau, puisque dans le fameux traité de police de Delamare, qui est du début du XVIIIe siècle, il y a tout un ensemble de pages, justement, sur les conditions de la réduction de la délinquance par l'organisation d'un espace public sur lequel on puisse bien avoir l'œil. Mais cette image de la lumière régénératrice du social, elle a véritablement marqué l'Amérique, et elle continue à le marquer. En témoigne le fait que l'une des plus puissantes fondations opérant sur le terrain de la transparence politique s'appelle aujourd'hui la Sunshine Foundation. Et cette histoire du lien entre transparence et bien public, il faut le souligner, a une existence en fait beaucoup plus ancienne. Le professeur qui a la chaire d'assyriologie ici, Dominique Charpin, me faisait récemment remarquer qu'en Mésopotamie, le dieu soleil, Samas, était le dieu de la justice. Et qu'il était le dieu de la justice parce qu'il était celui qui voyait tout, donc même ce qui était caché aux yeux des hommes, et qu'il intervenait comme une mise en transparence du monde. Et les textes sacrés de l'époque, qu'il m'a traduit, disaient de Samas, « Tu es celui qui met en lumière le cas du mauvais et du criminel ». Et Samas était considéré comme le garant d'une bonne politique, comme en témoigne le fait que sur la fameuse stèle d'Amourabi qui est au Louvre, c'est la stèle sur laquelle on a retrouvé le fameux code d'Amourabi, eh bien, en haut de la stèle, il y a une représentation du roi de Babylone, et face au roi de Babylone, il y a le dieu Samas. Donc, le bon gouvernement a essentiellement affaire avec le dieu opérateur de transparence. Beaucoup plus tard, un des écrits fondateurs de la politique moderne, La République de Bodin, insistera également sur le caractère de révélateur moral de la transparence. Je le cite. « Il n'y a, dit-il, que les trompeurs, les pipeurs et ceux qui abusent des autres, qui ne veulent pas qu'on découvre leur jeu, qu'on entende leurs actions, qu'on sache leur vie. Mais les gens de bien, eux, qui ne craignent point la lumière, prendront toujours plaisir qu'on connaisse leur état, qu'on connaisse leur qualité, qu'on connaisse leur bien, qu'on connaisse leur façon de vivre. » Il allait même, dans ce texte La République, jusqu'à citer un fameux tribun romain qui, alors que son architecte lui dessinait une maison dans laquelle la privatisation de l'espace serait bien organisée, avait dit son architecte, « Non, construisez-moi une maison où tous les gens qui circulent puissent voir ce que je fais toute la journée. » Et si la transparence a été de cette façon célébrée de longue date, c'est comme un moyen. Elle n'était pas en même temps, que ce soit dans la vision de Bodin, que ce soit dans la vision de Delamare, son traité de police auquel j'ai fait référence, et même dans la vision telle qu'elle apparaît du rôle du dieu Samas, elle n'est pas identifiée en même temps à la figure même de l'idéal politique, comme ce sera le cas en Amérique, à l'âge du progressisme. Il est d'ailleurs frappant de noter qu'en Europe, à la même époque, le problème de la corruption était abordé dans des termes très différents de la manière dont il était conçu en Amérique. La façon dont était appréhendé en France le scandale de Panama en a témoigné de façon éclatante, alors qu'il était d'une ampleur exceptionnelle, totalement inédite, et même si on considère l'histoire de la corruption en Europe au XIXe siècle, absolument sans équivalent. Il n'avait pas suscité de campagne en faveur d'une plus grande transparence. Ce qui avait été vilipendé, c'était les tares indélébiles du système social, plus que la malhonnêteté immédiate des corrompus. Jean Jaurès mettra ainsi significativement l'accent, je le cite, sur le scandale permanent de l'exploitation capitaliste. Comme ira jusqu'à le dire un historien, le scandale de Panama n'aura été qu'un incident bénin relativement à la nature du mouvement historique profond du capitalisme. Et si les faits révélés avaient mis en lumière la vénalité de très nombreux députés, c'était le système parlementaire en son essence qui était accusé, avec la critique de la pourriture des assemblées, comme on le disait à l'extrême droite. Et c'est d'un changement du système politique et social qu'on attendait donc des solutions à la question. pas d'une plus grande vertu des individus. Au XIXe siècle, au XXIe siècle, c'est la transparence comme idéologie. On a même parlé de nouvelle religion qui fait retour. Elle s'est peu à peu érigée en valeur politique centrale, accompagnant une forme de résignation citoyenne. Avec le triomphe de cette transparence comme idéologie, les objectifs proprement politiques et sociaux de la constitution d'une société démocratique ont de fait été laissés de côté. Et comme dans toute religion, le poids des croyants les plus zélés pèse lourd pour faire du toujours plus de transparence le critère cardinal du progrès démocratique. Il y a quelques années, la Sunshine Foundation, à laquelle j'ai fait référence, avait ainsi été jusqu'à lancer une grande initiative qui s'appelait The Punch Club Campaign, afin que tous les parlementaires américains mettent chaque jour en ligne leur agenda afin que les citoyens puissent apprécier et juger heure par heure ce qu'ils faisaient. Et il y a tout de même une centaine de parlementaires américains qui sont soumis à cette injection qui a donné lieu à tout un débat et à notamment une analyse extrêmement intéressante publiée dans The New Republic par Lawrence Lessig. Si une idéologie de la transparence de cette sorte peut légitimement inspirer la méfiance, on ne saurait faire de la transparence une politique en soi. La mise en place de procédures de transparence doivent, elles, être mises en œuvre comme des outils contribuant utilement à organiser une atmosphère d'intégrité dans une société donnée. Et on doit parler, dans ce cas-là, d'une troisième catégorie de transparence, la transparence instrumentale. Conception dont la limitation se lie à une désagrégation et une clarification des figures de cette transparence au-delà de la première distinction des trois formes que nous venons de distinguer. Revenons en effet à certains éléments de clarification de la notion de transparence au-delà des trois catégories que je viens de mentionner. J'avais mentionné tout à l'heure la distinction avec la notion de publicité. Mais j'ai aussi construit dans un cours précédent la spécificité de la notion de lisibilité qui apporte une dimension de mise en intelligibilité et d'interprétation du monde. Nous avons encore, dans un cours précédent, distingué le droit de savoir, conçu de deux façons, le droit de savoir comme levée des secrets et le droit de savoir comme mise en place du principe d'open data. Recouvrir toutes ces pratiques du seul terme de transparence, comme c'est souvent le cas, entraîne des confusions qui doivent être évitées, car elles sont en fin de compte au désavantage de la construction positive de chacune de ces catégories prises séparément. Et c'est donc un volet nécessaire de clarification qu'il faut opérer. La deuxième clarification qu'il faut faire, c'est que tout un ensemble de conflits surgissent du fait qu'il y a de plus en plus d'opposition entre les deux principes fondamentaux organisateurs de la démocratie. On pourrait dire les droits et la participation. Le droit du citoyen à la transparence et de l'autre côté, le droit de l'individu à l'opacité, c'est-à-dire à sa protection privée. Le citoyen, et c'est même l'essence de la citoyenneté, doit avoir un droit de regard sur ceux qu'il représente ou le gouverne pour s'assurer de leur intégrité, et l'individu doit en même temps pouvoir être protégé du regard d'autrui et de celui de l'État. Ce dernier droit a historiquement été menacé en permanence par les empiètements de l'État dans l'exercice de ses fonctions régaliennes, empiètement aujourd'hui décuplé par une vision de la sécurité ou la lutte contre le terrorisme qui tend à être fondée sur une accumulation illimitée de données sur la vie et les communications des individus, voire tous les débats qu'il y a eu sur la NSA américaine. Mais il est également du fait que l'information sur la vie privée est devenue une marchandise de grande valeur, à l'âge d'un marketing particularisé. La transparence politique, donc d'un côté, mais la transparence sécuritaire et la transparence marchande se développent du même coup de pair en produisant des effets totalement divergents du point de vue de l'édification d'une société libérale démocratique. Il y a pour cette raison de véritables batailles de la transparence qui structurent aujourd'hui à front renversé ces trois univers. Il y a là une distinction essentielle à faire entre une transparence d'empowerment et une transparence d'aliénation, selon qu'on en est l'acteur ou le sujet. mais il serait bien sûr absurde de les mettre sur le même pied et de mettre en avant les menaces que font poser les formes de transparence intrusives dans la vie privée pour disqualifier la transparence instrumentale démocratique comme moyen de régulation de l'intégrité sous la forme de filtres, de régulation de l'intégrité des hommes et des femmes politiques. Et ces derniers, quant à eux, ne peuvent se prévaloir d'un droit à la protection de la vie privée équivalent à celui des citoyens, dans la mesure où la partie politique de leur vie personnelle est d'ordre public et non pas privé. Il y a d'ailleurs là une forme de rapprochement entre ces individus qu'on pourrait dire particuliers que sont les célébrités et les personnages publics politiques. Le curseur qui règle leur rapport selon les pays varie, mais l'évolution de la législation va dans le même sens, notamment la législation de la Cour européenne des droits de l'homme. Cette Cour protège de plus en plus la liberté d'information en la favorisant par rapport à la protection de la vie privée, pour ces deux catégories qui sont les célébrités et les personnalités publiques politiques. Il faut, en troisième point, clarifier la nature de cette transparence instrumentale. Elle n'est pas simplement de l'ordre d'une technique de contrôle, elle est aussi une forme d'exercice d'un pouvoir citoyen. Cette transparence instaure en effet une dissymétrie entre deux agents, entre celui qui est soumis à une injonction contraignante de nature et celui qui est en position d'observateur. Ce dernier s'affirme en effet de la sorte comme le maître. C'est avec l'impératif de transparence que la dépendance du représentant vis-à-vis du représenté ou celle du gouvernant vis-à-vis du gouverné se font dorénavant le plus directement sentir, bien plus que dans le lien électoral dans lequel la dépendance n'est que passagère. Avec les obligations de transparence, le représentant et le gouvernant changent de fait de statut. Le premier, s'il reste libre de tout mandat, c'est la base du gouvernement représentatif, se trouve en effet soumis à un autre type de contrainte permanente. Et le second se voit de fait traité sur le même pied qu'un représentant avec ce type d'obligation. Ces obligations unifient de ce point de vue les deux catégories. La transparence produit ainsi ce qu'on pourrait appeler une communauté de vulnérabilité entre ceux à qui elle est imposée, en les mettant en permanence à nu face à leurs juges citoyens. Alors que la publicité classique était fondée sur l'idée d'un échange, qu'elle impliquait une relation d'égalité, la transparence introduit un dénivelé. Il faut comprendre dans cette direction, d'ailleurs, les résistances continues des hommes et des femmes politiques à la transparence et le fait qu'ils tendent même spontanément à voir dans son imposition l'équivalent d'une forme de discrimination à leur égard, comme en témoigne la façon dont ils lancent si souvent aux journalistes qui les interrogent sur leurs revenus, leur patrimoine, « Et vous, combien gagnez-vous? Combien vaut votre appartement ?» Comme s'il y avait une forme d'injustice dans l'injonction à ce qu'ils fassent preuve, eux seuls, de la transparence. On peut dire aujourd'hui que la transparence pour l'intégrité, la transparence instrumentale, est clairement devenue une des formes de la souveraineté du peuple. Parler de l'intégrité, c'est donc parler des moyens qui peuvent être mis en œuvre pour la réaliser, et j'ai distingué tout à l'heure les filtres et les sanctions. Commençons par les institutions de l'intégrité. Ces institutions sont de l'ordre des filtres. Et l'exemple français de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en constitue un bon exemple. Mise en place par une loi du 11 octobre 2013, dans le sillage du choc créé par l'affaire Cahuzac, c'est ce qui a permis de faire une loi très radicale, elle a fait faire un grand bond en avant par rapport au contrôle auparavant beaucoup plus circonscrit. Contrôle des comptes de campagne électorale ou contrôle des patrimoines des élus et des responsables publics qui était prévu dès 1988 par une commission pour la transparence de la vie politique mais qui n'avait que de faibles moyens et en tout cas pour laquelle il n'y avait pas de publicité des renseignements prévus. Avec cette nouvelle autorité, ce sont désormais près de 9000 personnes qui sont soumises en France à une obligation de déclaration annuelle de leurs revenus, de leur patrimoine ainsi que de leurs intérêts. Tous les éléments devant être déclarés font l'objet d'une énumération d'ailleurs extrêmement précise et pointilleuse, presque technique. Sont concernés les ministres, les parlementaires et leurs collaborateurs, les membres des cabinets ministériels, de très nombreux hauts fonctionnaires, ainsi que les membres des diverses autorités indépendantes. Cette mise en place ne s'est pas faite sans d'âpres discussions, même si la pression d'opinion publique a joué un rôle. Symbole de ces discussions, c'est que des parlementaires ont saisi le Conseil constitutionnel à travers la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité et que la consultation du Conseil constitutionnel s'est traduite par la réduction d'un certain nombre d'éléments qui étaient prévus dans le projet de loi initial. Je pense notamment que le projet de loi initial allait très loin puisque les obligations de déclaration avaient été étendues aux enfants et aux parents des personnes concernées. Donc cela, ça a été supprimé par le Conseil constitutionnel. A également été modifié par le Conseil constitutionnel le fait que la consultation des dossiers des parlementaires ne peut se faire qu'au niveau des préfectures, alors que les dossiers des ministres sont consultables sur Internet. Tous les journaux, d'ailleurs, les ont reproduits. Limitation de la capacité de l'institution aussi, limitation de sa capacité d'injonction directe aux parlementaires notamment, en soulignant qu'il fallait pour cela s'adresser au bureau des assemblées et non pas directement aux parlementaires eux-mêmes, au nom d'un principe de séparation des pouvoirs. C'est une question juridique qui est amplement discutée. Mais, malgré ces limitations apportées, telles qu'elles fonctionnent actuellement, cette autorité n'en a pas moins commencé à bouleverser beaucoup de choses. En rendant public sur leur site les déclarations des ministres, comme je l'ai dit, mais aussi en transmettant au parquet des dossiers estimés suspects et surtout en ayant créé sur toutes ces questions une atmosphère nouvelle. Il est prévu par les textes que les ministres se rendent au siège de la haute autorité pour expliquer leurs déclarations. Fait inédit aussi, très inédit, la loi prévoit que l'autorité puisse être saisie par des associations citoyennes chargé de lutter contre la corruption. Et un lien spécial s'est du même coup tissé entre la Haute Autorité et Transparency International France. Mais l'institution est désireuse de ne pas en rester là, et le rôle que peuvent jouer sur son terrain des lanceurs d'alerte ne l'effraie absolument pas. Je l'ai vérifié puisque j'ai été consulté récemment par l'autorité. Dirigée depuis sa fondation par un président aussi rigoureux que volontariste, il s'agit de Jean-Louis Nadal, qui était le procureur général auprès de la Cour de cassation, qui est un des grands magistrats connus pour son franc-parler et son indépendance d'esprit. L'autorité a vite imposé sa présence dans le paysage politique et moral. On notera que si aujourd'hui les lanceurs d'alerte sont beaucoup mieux protégés aux États-Unis et en Italie qu'en France et dans les autres pays européens, cette institution est en fait, elle, relativement en avance sur ce qui existe d'équivalent au monde. Il n'y a rien aux États-Unis, rien d'équivalent, par exemple. Les whistleblowers sont bien protégés aux États-Unis, mais il n'y a absolument pas toutes ces obligations de déclaration de transparence des revenus et du patrimoine qui existent. Dans un récent rapport sollicité par le président de la République, le président de l'autorité a lancé de nouvelles pistes de réflexion concernant tant le fonctionnement de celle-ci que l'arsenal des sanctions applicables aux contrevenants ou encore la nature et l'extension des contrôles. Outre tout un ensemble de questions techniques, mais ayant d'importants effets, c'est notamment le problème des rapports avec l'administration fiscale. Est-ce que l'administration fiscale est obligée de donner tous les renseignements que demande la haute autorité, mais il faut passer par l'administration. Il suggère d'avoir un accès direct, c'est-à-dire d'être dans les ordinateurs, quoi, même de la... des impôts. Indépendamment de cela, trois propositions très importantes ont retenu l'attention et comme c'est dans les terribles événements récents que ce rapport a été remis, la publicité n'a pas été très forte. Mais trois éléments, en tout cas, qui vont être discutés, qui sont trois propositions. Premièrement, le projet de vérifier la situation fiscale des ministres préalablement à leur nomination. Comme ça, il n'y aura plus d'affaires Thévenoud, disons. La délivrance, enfin, très important, la délivrance d'un certificat de régularité fiscale pour toute personne étant candidate à une élection nationale. Et aussi la vérification des candidats à toute autre responsabilité administrative avant leur nomination. Donc là, véritablement, on peut dire que la notion de filtre, elle joue pleinement. C'est véritablement l'exemple même de ce qu'on peut appeler le filtre. Et cette fonction de gardien de l'intégrité que joue une institution de ce type invite à souligner le fait que ce sont toujours des organismes indépendants qui doivent exercer ce contrôle. Ce qui est loin d'être communément accepté. Bien des institutions tiennent en effet, comme on dit, à laver leur linge sale en famille, sans publicité. Cela a longtemps été le cas de l'Église face aux problèmes de pédophilie, ou de la police face à ses brebis galeuses, etc. C'est mal comprendre le sens de la transparence sur ces questions. La transparence n'est pas seulement instrumentale, toujours, bien sûr, n'est pas seulement une condition de la vitalité démocratique, elle est à l'avantage des institutions elles-mêmes. C'est un point sur lequel Bentham avait mis l'accent. Une institution ne saurait être crédible et légitime si elle se fait en secret, juge d'elle-même. Dans son traité des assemblées politiques délibérantes, il avait ainsi écrit « La censure interne ne suffira jamais pour assurer la probité sans le recours à une censure externe. » Il poursuivait « On craint peu les reproches de ses amis, on devient presque insensible à ceux de ses ennemis. L'esprit de parti, renfermé dans une petite enceinte, dénature également le blâme et la louange. » On peut dire que la transparence fortifie les institutions en montrant leur souci du bien commun. Et la reconnaissance même de leur faiblesse est le signe qu'elles ne vivent pas repliées sur elles-mêmes. Cette question a une longue histoire. Elle a en fait été débattue en Angleterre à la fin du XVIIe siècle, au moment où s'est mise en place la fameuse Commission for Public Accounts dont j'ai rendu compte, au moment de la guerre de 9 ans, de la guerre anglo-hollandaise. À ce moment-là, il y avait donc, pour la première fois, les premiers éléments d'un contrôle public des comptes. Mais également a commencé à apparaître toute une littérature d'employés des départements ministériels qui avaient attiré eux-mêmes l'attention du public sur des malversations en publiant des petits pamphlets. Ce sont les premiers whistleblowers de l'histoire, si je puis dire. Et notamment, il y a toute une série de libelles qui s'était attaqué à la gestion d'une commission très importante de l'amirauté, qui était la Commission for Sick and Wounded. C'est-à-dire c'était la commission qui donnait des allocations à tous les invalides et les personnes blessées. Et des employés avaient suspecté et découvert des formes de corruption par des officiers. Et il y a eu une grande discussion en Angleterre pour opposer, je dirais, le contrôle parlementaire régulier ou bien le contrôle de l'administration sur elle-même à ces types de pratiques. Et à la tentative de régler en interne ces questions, s'est ainsi opposée une très importante campagne de pétitionnement auprès de la Chambre des communes, qui a ouvert la voie, pour la première fois, à un nouveau type d'intervention directe des citoyens sur le fonctionnement de la chose publique. Je mentionne cet exemple parce qu'il y a eu un grand article qui a été très remarqué il y a quelques mois dans The Historical Journal en Angleterre qui a traité de cette question-là. Mais il ne faut pas simplement s'intéresser aux filtres, il faut aussi s'intéresser aux sanctions quand même, même si les sanctions sont un régime un peu différent. Donner l'exemple des sanctions, on peut partir d'un exemple anecdotique, c'est la publication au lendemain du scandale de Panama d'un journal en France qui avait pour titre « Le Balai ». Et l'image du balai a été omniprésente dans le cours des événements, la révélation du scandale de Panama. Et c'est au moment où l'antiparlementarisme s'installe comme une donnée essentielle de la vie politique française, l'idée c'est que le coup de balai doit être un coup de balai électoral. Et c'est le balai électoral qui va être le remède pour écarter les politiciens corrompus et en finir avec la pourriture parlementaire. Et on voit énormément, à l'époque, d'illustrations satiriques où on voit justement le père Pénard qui balaye et envoie dans les abîmes les parlementaires. Et l'idée n'a cessé de ressurgir jusqu'à nos jours, puisqu'on voit même que récemment en France avait été lancé le slogan « Qu'ils s'en aillent tous ». Avec des effets parfois surprenants, puisqu'il n'a pas été rare de voir des candidats fortement soupçonnés de corruption, voire même condamnés pour de tels faits, être absous par les électeurs. Et je reviendrai rapidement sur cette question tout à l'heure. Le fait massif est d'un autre côté que la corruption a progressivement été beaucoup plus activement pourchassée dans nombre de pays. L'arsenal judiciaire et les investigations policières spécialisées s'étant notablement renforcé. Et des personnalités politiques de premier plan, en Europe, mais pas seulement en Europe, ont ainsi partout été poursuivies et condamnées, parfois lourdement. Mais la sanction pénale est-elle suffisante pour traiter ces problèmes ? C'est l'interrogation que je voudrais soulever ici. Outre les délits communs, pour lesquels peuvent être condamnées des personnalités politiques, il y a aussi de nouvelles catégories de délits qui sont maintenant définies par la loi pour des infractions, par exemple, aux obligations de transparence. La rigueur à les poursuivre est décisive, mais on ne peut en rester là. Doit en effet aussi être prise en compte, être évaluée la spécificité du dommage moral et politique qui résulte des comportements délictueux en la matière. Si le droit pénal réprime, par exemple, la fraude fiscale ou le blanchiment de fraude fiscale, il ne fait par définition pas de distinction entre les coupables. C'est le fondement même de l'état de droit. Mais du point de vue de ses conséquences morales et politiques pour un pays, un tel acte n'est pas de même portée selon qu'il est commis par un simple particulier ou par un élu du suffrage universel. Dans le premier cas, la sanction purge adéquatement la faute, puisqu'elle est adéquate la sanction à cette faute, mais il en va tout différemment si le coupable est une personnalité politique d'importance. La faute rejaillit en effet alors sur toute la classe politique. Elle alimente un rejet de celle-ci. Ce n'est donc pas seulement une règle fiscale qui a été violée, c'est la confiance publique qui a été abusée. C'est le crédit que l'on porte aux institutions démocratiques qui a été entamé. En fraudant le fisc, le corrompu se montre dans ce cas non simplement auteur d'un délit, mais indigne de sa fonction. Il y a donc, pourrait-on dire, c'est une expression très employée pendant la Révolution française, un crime de lèse-démocratie qui est employé pour décalquer l'ancienne catégorie de lèse-majesté. La réponse à cette question a une longue histoire. C'est celle des peines d'indignité. C'est celle des peines infamantes. Elle est très longue, cette histoire. Il faut commencer par distinguer la notion de stigmatisation de celle de dégradation. La notion de stigmatisation, elle vient de stigma en grec. Le mot évoque une marque visible, un tatouage. Et à Athènes, un certain type de crime pouvait entraîner le bannissement ou la perte de droits civiques, mais aussi l'impression sur le corps d'une marque indélébile, destinée à rappeler pour toujours la faute du coupable aux yeux de la société. Il y avait une tradition à Athènes qui ressemble au pub walk américain actuel, des promenades infamantes dans la cité. Et les Romains auront des pratiques analogues qui subsisteront d'ailleurs en Europe jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Mais en Europe, on y ajoutera la notion de flétrissure. Celle-ci superposée à la peine, l'idée d'une destruction physique qui pouvait aller jusqu'à la mort en cas de condamnation à mort d'exécution. Et donc, tout un ensemble de rituels punitifs mettront en place une stigmatisation du condamné. Et par exemple, une personne qui était un prêtre qui était condamné à mort dans certaines circonstances pouvait être amenée sur le lieu de son exécution avec revêtue de tous les habits sacerdotaux et avant d'être exécuté, on lui enlevait un par un ses différents habits. Il y avait aussi la même chose qui existait pour des nobles qui étaient de la même façon dégradés et qui perdaient leur titre de noblesse avant d'être exécutés. Il y avait aussi la même chose pour des magistrats. Des magistrats en séance publique se voyaient enlever leurs habits et ils ressortaient en blouse grise, quoi, ce qu'il y avait dessous. Et on a aussi des exemples qui sont assez nombreux dans ce domaine du droit pénal dans toute l'Europe, je dirais, du XVIIe au XVIIIe siècle. À côté des peines de stigmatisation, il faut donc noter les peines de dégradation, qui avaient pour but, juridiquement, de ruiner la réputation d'une personne en la déclarant indigne. C'est à Rome, pour la première fois, qu'a été théorisée la notion de dégradation. Et c'était le travail principal des censeurs, les arbitres des mœurs, qui pouvait par exemple poursuivre le mépris des serments, des formes jugées dommageables d'indifférence au bien public, ou même un étalage de luxe jugé excessif. Et donc le propre des censeurs à Rome, c'est qu'ils prononçaient des peines qui n'étaient ni financières ni pénales. C'était des peines, pourrait-on dire, sociales. Et notamment pour les personnes importantes qui avaient le rang de chevalier à Rome, l'ordre des chevaliers, c'était véritablement, je dirais, l'équivalent de la noblesse romaine, eh bien, publiquement, ils étaient privés de leur cheval. Donc ils étaient avec tout leur attirail, ils repartaient à pied, quoi. Voilà, devant le public. Et il y a eu aussi, par exemple, des sénateurs qui ont été poursuivis pour luxe jugé excessif. Ils ne pouvaient pas être poursuivis pénalement, parce qu'aucune loi ne réprimait le fait d'avoir une vaisselle luxueuse ou de manger, je ne sais pas ce qui était considéré comme le plus luxueux à l'époque. Mais un censeur, les censeurs, avaient la possibilité de prononcer ces peines particulières. À tel point que lorsqu'il y a eu la dégradation de la République à Rome, lorsqu'on a été vers l'Empire, les empereurs ont tout fait pour accaparer la fonction de censeur et devenir eux-mêmes censeurs. Ça, c'est quelque chose qui a été très, très étudié, je dirais, dans l'histoire romaine. Au moment de la Révolution française, cette question a été considérée extrêmement sérieusement. Parce qu'on peut dire que l'honneur avait cessé d'être le privilège de quelques-uns. Mais chacun, du même coup, était aussi susceptible d'être accusé d'indignité s'il contrevenait gravement à la morale civique, surtout s'il avait été élu, puisqu'on considère alors que les citoyens choisissaient leurs représentants en considérant au premier chef qu'ils étaient les plus dignes de la confiance publique. Je rappelle que pendant la Révolution française, la théorie de l'élection est une théorie de la pure élection. C'est-à-dire que l'élection, ce n'est pas un choix entre des personnes. L'élection, c'est la distinction pure de la vertu et du talent, de telle sorte qu'il était interdit de faire campagne. Et les représentants indignes étaient donc ceux qui avaient trahi la confiance publique. Et cette catégorie fondamentale de l'indignité politique sera au centre de nombreux débats pendant la période révolutionnaire, même si elle sera difficile à codifier. Et le code pénal, jusqu'à d'ailleurs très récemment, prévoyait des peines d'indignité. Ces peines d'indignité ayant été en quelque sorte revivifiées après la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il y a eu 95 000 Françaises et Français qui ont été condamnés à la peine d'indignité nationale par les tribunaux après la Deuxième Guerre mondiale. Je ne peux pas développer cette question-là, mais il y a un livre qui fait vraiment référence, c'est le livre d'Anne Simonin, qui dirige la Maison française à Oxford, Le déshonneur dans la République, et qui est une histoire de la peine d'indignité, essentiellement centrée sur la période postérieure à la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi avec un certain nombre d'éléments historiques avant. L'appréhension de cette notion d'indignité a ensuite évolué jusqu'à paraître progressivement désuète. Après l'abolition de la peine de mort en 1981, le nouveau code pénal de 1994 supprimera la peine de dégradation civique, tout en maintenant en vigueur la peine de privation des droits civiques à temps, qui n'en constitue qu'une version très restrictive. Et c'est la catégorie même de peine infamante qui s'est subrepticement trouvée évacuée de façon concomitante. Mais cette suppression mérite, à mon sens, d'être interrogée à l'heure où la défiance gouverne les rapports de la société aux élus. Il est frappant que dans justement ce rapport qui a pour titre « Renouer la confiance publique » que vient de publier Jean-Louis Nadal et qui était remis au président de la République, il a courageusement relancé la réflexion en soulignant deux axes de réflexion possibles. Premièrement, en suggérant que les assemblées devraient avoir la possibilité de destituer certains de leurs membres en cas de manquement grave à l'exemplarité. Premièrement, les cas posés, par exemple, étant celui d'un député qui était condamné par tout le monde, y compris par les gens de son camp politique Thévenoud, mais qui a tenu à resiéger. Eh bien, il propose que dans ce cas-là, il y ait une procédure pour permettre de destituer que les assemblées puissent les situer. Mais surtout, il a remis sur le tapis, si je puis dire, le problème des peines d'inéligibilité. Parce qu'en France, quelqu'un qui est poursuivi, un élu, qui est poursuivi, par exemple, pour, c'est un cas un des plus fréquents, fraude fiscale, bon. Il peut être condamné à une peine prévue par le code pénal pour cela, et le code prévoit que des peines d'inéligibilité peuvent être prononcées. Mais c'est simplement, elles ne sont pas du même ordre que les peines pénales, c'est un supplément qui est à la disposition du juge, en quelque sorte. Or, un examen très serré de cette question qui était faite dans le rapport Nadal, justement, montre que ces peines sont très peu souvent prononcées. Elles sont très peu souvent prononcées. Donc, il y a une réflexion à faire sur le statut de la peine d'inéligibilité. Et également une réflexion à faire, lui-même pose la question, c'est comment est-il possible d'envisager des peines d'inéligibilité définitives ? Un sondage récent, il ne faut pas se fier au sondage, mais c'est une petite indication, de novembre 2014, indiquait que 85% des Français seraient favorables à une telle possibilité de peine d'indignité, qui serait l'inéligibilité définitive. Quelle que soit l'issue de ces discussions, il est clair qu'elles ne font que commencer. Ces discussions vont se poursuivre, inévitablement, et la question des sanctions morales au-delà des sanctions pénales n'a ainsi pas fini d'animer le débat pour assurer un plus haut niveau d'intégrité dans le monde politique. Donc j'en ai fini avec l'intégrité, je parlerai tout à l'heure du parler vrai.